الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم.
La paix de salut soit sur vous, louange à Dieu, maître des mondes, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed, ses proches et ses compagnons. La pensée occidentale connaît une lutte intense et dévastatrice entre la religion et la science, et aucun penseur occidental ne peut admettre qu'il y ait une possibilité de rencontre et de conciliation entre la religion et la science. Car la Sainte Bible chez les chrétiens énonce que l'arbre dont le fruit a été interdit à Adam est l'arbre de la connaissance et qu'après en avoir goûté le fruit, il a acquis une plus grande perception. Cela explique le débat qui s'est instauré en Europe 12 siècles durant pour savoir si on pouvait admettre ces sciences cosmiques et ces connaissances qui venaient du pays de l'islam ou s'il s'agissait de les rejeter. L'Église avait jugé que ces sciences et ces connaissances constituaient le péché originel. L'argument qu'elle avançait était puisé des Écritures qui disent qu'Adam, après avoir mangé de l'arbre interdit, avait acquis une plus grande perception, suscitant le courroux de Dieu qui l'a chassé de sa miséricorde. Et cela explique le rejet de toutes les sciences sans aucune distinction. La science fut confisquée. Et lorsque les tenants de la science sortirent vainqueurs de leur bataille contre les hommes d'Église, ils n'ont pas tardé à prendre leur revanche en lançant un mouvement dans le sens opposé, tendant à supprimer la religion. Tous les moyens étaient utilisés et la victoire obtenue, l'Église fut réduite à sa plus simple expression, confinée dans un rôle insignifiant. Ce rappel historique explique l'étonnement de l'occidental d'aujourd'hui lorsqu'on lui parle de science et de religion. Il ne connaît pas l'islam. Il ignore la place privilégiée qu'il accorde à la science et aux hommes de science. Il ne sait pas qu'il a fait des hommes de science les témoins après les anges, qu'il n'est d'autre Dieu que Dieu, comme cela est dit dans les versets suivants. Dieu témoin, et avec lui les anges et les initiés parmi les hommes, qu'il n'y a de Dieu que lui. Dans un autre verset, sache qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Ne savent-ils pas que l'attribut qui distingue Adam des anges est l'attribut de la science et que tel qu'il est rapporté dans le Coran, l'histoire est l'inverse de celle rapportée dans leurs écritures qui ont subi des altérations. La science justifie l'évolution d'Adam et ne constitue pas la cause de son exclusion. Voilà ce que mentionne le Coran. Leur parler de l'islam et de science les incite à croire qu'il s'agit d'un problème analogue à celui de leur religion vis-à-vis de la science. Et cela explique leur étonnement lorsqu'ils découvrent des vérités claires et évidentes. Parmi eux, et parmi ceux que cela a étonné, le professeur Judith Simpson, professeur de gynécologie et d'accouchement à l'université de Northwestern, à Chicago, aux USA, et que nous voyons ici. Lorsque nous l'avons rencontré, il doutait au début et voulait avoir l'assurance qu'il s'agissait bien de textes coraniques et de textes de la Sunna. Rassuré, il prit connaissance des textes relatifs à l'hérédité au cours des premières phases, lorsqu'il y a une goutte de sperme, et il constata la précision, la description et comment le Coran mentionne que l'homme est créé après la réunion de deux gouttes, mâle et femelle, la création de l'homme étant décidée après cela, et ensuite le code génétique étant déterminant de ces chromosomes que nous voyons maintenant. Ces chromosomes comportent des détails sur l'être qui vient de naître. Couleur des yeux, de la peau, des cheveux et nombreux autres détails sont déterminés ici. L'homme est donc déterminé ici, dans ses chromosomes, au stade de la goutte de sperme. L'homme est par conséquent déterminé auprès de Dieu au stade de l'embryon. Dieu dit, périsse l'homme, quel ingrat, oublie-t-il d'où Dieu l'a tiré et l'a fait d'une goutte de sperme qu'il a transformée à son gré. Avant et au cours des 40 premiers jours, tous les organes de l'embryon sont assemblés et apparaissent, même si cela se fait successivement, comme on le constate sur cette image. Les organes commencent à se former proportionnés et l'embryon apparaît replié sur lui-même. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « La création de l'homme dans le ventre de sa mère se fait en 40 jours par la réunion des éléments qui le constituent. » Le professeur Judy Simpson s'est penché sur le hadith et sur celui qui dit « Au terme de 42 nuits, Dieu envoie à l'embryon un ange qui le façonne. » Pour procéder à une comparaison entre les deux et étudier la période qui sépare ces deux phases 40 jours, muni de ses précisions et de ses détails, il a exprimé au cours d'un congrès scientifique son opinion sur ce sujet. À partir de ce beau hadith, il est possible de lire un calendrier possible du développement principal de l'embryon avant 40 jours. Ce point a été abordé plusieurs fois dans les interventions au cours de cette matinée. Il est évident que ce hadith ne peut être fondé sur les connaissances utilisées à l'époque. Et il s'agit plutôt de hadiths qui traduisent la connaissance divine. Il affirme que la religion peut guider la science avec succès. Notez que chez eux, la religion s'oppose à la science. Et ici, ce professeur américain affirme que la religion, l'islam, est en mesure d'utiliser la science avec succès. Oui, si tu visites une usine quelconque munie des indications nécessaires, il te sera aisé d'en connaître tous les détails parce que tu disposes des indications fournies par le constructeur. Au contraire, celui qui pénètre dans cette usine sans en rien savoir aura certainement des difficultés. Au savant musulman, je cite ces quelques paroles du professeur Simpson. En conséquence, j'estime qu'il n'y a pas de désaccord entre la connaissance scientifique et la révélation. Et je considère plutôt que la révélation est venu renforcer une époque difficile pour les connaissances qui étaient en vigueur à l'époque. Le Coran est venu plusieurs siècles avant cela pour appuyer ce qu'on avait dit et qu'il s'agissait bien de la parole de Dieu. Et j'affirme que les musulmans peuvent diriger la marche du mouvement scientifique, donner à la science sa véritable place et en faire une preuve de la foi en Dieu et la confirmation que Mohammed est le prophète de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Certes, Dieu n'a-t-il pas dit, nous leur ferons si bien apparaître nos signes dans l'univers et en eux-mêmes qu'ils sauront bien un jour que ce signe est la vérité. N'est-ce pas assez de Dieu pour témoin de toutes choses ?